Aujourd'hui, Paul continue de développer son l'idée qu'on a entendue hier du fait que Dieu appelle ce qui est fou pour réduire la sagesse du monde. Et alors dans nos traductions, nous avons le mot faible. Et j'en profite pour parler un peu de ce mot asthéné. Alors, parfois c'est intéressant d'aller regarder le sens des mots avec un peu, en approfondissant un petit peu, en sachant quand même que qu'il n'est pas certain que Paul ait dicté ses épîtres en grec. Enfin, à mon avis, il est tout à fait vraisemblable qu'il les ait dictés en araméen, mais que les gens qui ont pris des notes, les scribes, étaient bilingues. Bon, c'est simplement expérimental. Je crois que quand on a un message extrêmement important à délivrer, on le délivre dans sa propre langue et on prend des gens qui sont capables de le traduire dans une autre langue. Ceci n'engage que moi. Et en tout cas, ça expliquerait toutes les difficultés grammaticales et de style qu'il y a dans les épîtres de Paul. Du reste, si ce ne sont pas les mêmes qui ont traduit, c'est forcé que ça fasse des choses différentes. Mais tout ça est hypothétique et n'est pas du tout en vogue. Quoi qu'il en soit, on peut donc imaginer que le mot qui a été utilisé a peut-être un autre sens. Donc, asthénos, c'est donc celui qui est sans sténos. Alors, sténos, c'est la force, d'accord? Et si nous allons regarder l'étymologie de ce mot dans un dictionnaire étymologique grec, nous découvrons que donc sténos a beaucoup de composés. Et il y a notamment une entrée sur asthénos. Et l'auteur dit asthénos, sans force, est un terme important, courant en prose. Il présente un sens général, peut s'appliquer à la pauvreté, à l'insignifiance, mais finalement est utilisé par euphémisme pour les malades. Et voilà, j'arrête là mon commentaire, hein, c'est l'étymologie de châtraigne. Les malades, je trouve que c'est assez éclairant de penser que Dieu choisit les malades. Je ne suis pas venu pour les bien portants, dit-il dans l'évangile, dit Jésus. Paul ne peut pas ignorer que Jésus a dit ça, il connaît l'évangile de Jésus. Et je pense que ce serait une idée intéressante de ne pas mettre faible, mais malade, les infirmes autrement dit. Et Dieu choisit donc ceux qui sont malades, les infirmes. Alors les infirmités, elles peuvent être physiques, elles peuvent être visibles, intérieures. Vous connaissez l'histoire de cet évêque qui est à Lourdes et qui est abordé par une jeune femme handicapée, assez physique, assez lourdement, et qui lui dit, en fait, Monseigneur, vous et moi, on est pareil. Alors l'évêque est un peu interloqué. Et elle poursuit, oui, moi mes handicaps ils sont extérieurs, vous ils sont intérieurs. Ben oui, c'est la réalité, voilà. Donc nous sommes malades. Et puis donc le terme fort, c'est ischura, ferme, qui résiste, qui est puissant. Donc on voit bien ce que ça peut vouloir dire. Les potentats en quelque sorte, et à côté de ça, dans ce qu'on appelle les impropères, le Vendredi Saint, nous chantons Agios Ischiros, Saint fort, Saint immortel, Eleumas, prends pitié de nous. Voilà, donc l'Ischiros, c'est le fort, quoi, c'est celui qui est puissant. Et pour nous, ben, c'est le puissant qui vient au secours de notre maladie. Donc bien sûr, l'opposition est légitime. Là, ce que dit Paul, c'est pas que le fort vienne au secours du malade, c'est plutôt que le malade vienne au secours du fort. Mais avec Jésus, c'est quand même un peu l'inverse, même complètement. Bref, il y a un combat. Il y a un combat entre la faiblesse, la maladie aux yeux du monde et la puissance aux yeux du monde. Il y a un combat entre les deux. Je trouve que c'est important de relever ce combat parce que parfois nous oublions qu'il y a un combat. Ouais, c'est pas juste. Ouais, bah, y a un combat, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce combat? Aujourd'hui, dans la règle de Saint Benoît, on entend le chapitre 72e sur le bon zèle. Et alors, il nous dit qu'à un moment, il faut chercher ce qui est avantageux aux autres plutôt qu'à soi. Si ça, c'est pas un combat, dites-moi ce que c'est. Et pourquoi y a-t-il un combat? Et il invite finalement à la louange, à la sagesse divine. Pourquoi faut-il louer la sagesse divine? Pourquoi y a-t-il ce combat? Franchement, après tout, c'est pas très juste ce truc-là. Hein. Ce serait quand même beaucoup plus simple que les gentils, il leur arrive des choses bien, et que les méchants, il leur arrive des choses pas bien, quoi. Mais vous avez pu remarquer que ce n'était pas tout à fait le cas. Pourquoi y a-t-il un combat? Eh bien, c'est très simple, parce qu'il s'agit de remporter un prix. Et ça, nous l'oublions. C'est encore le thème de la vie éternelle qui est abordé ici, et que j'aborde. Il y a un prix à remporter. Ah oui, mais la vie est belle, il faut la vivre. Mais bien sûr qu'elle est belle et qu'il faut la vivre, surtout quand elle est éternelle. Hein. Mais la vie terrestre n'est pas éternelle et n'est pas belle tous les jours. Et si nous perdons cela de vue, eh bien, comme le dit Paul ailleurs, hein, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. S'il n'y a rien après, c'est pas la peine tellement de faire des efforts, quoi. Donc le prix est le même, le trophée est le même pour tout le monde, c'est la vie éternelle. C'est quand même la vie éternelle, quoi. Pensez au jour où vous vous réveillez en vous disant « Waouh, aujourd'hui c'est génial, je suis bien. » Ouais, bah c'est quand même ça la vie éternelle, hein, sauf qu'on ne dort pas. Mais la vision de Dieu, l'amour sans interruption, c'est bien d'y penser parce que ça nous aide devant l'adversité à nous dire « Ouais, il y a un combat, il y a un combat. » Et si cette petite épreuve que je traverse, ou cette grande épreuve que je traverse, était le gage d'une joie plus immense, éternellement, est-ce que ça vaut la peine d'y réfléchir? Donc il y a un combat entre les malades et ceux qui pensent ne pas être malades. Et dans l'Évangile, on a encore un combat. C'est le combat de la fruition, le combat du fruit, de donner du fruit. Vous remarquerez que ces serviteurs n'ont rien demandé. Le maître les appelle et il leur colle des talents dans les mains et t'as qu'à les faire fructifier. Et aucun ne dit à la fin, il dit « je savais pas moi que tu voulais que je fasse fructifier ». Aucun ne dit « je t'avais rien demandé ». Ce sont des choses qu'on peut entendre parfois aujourd'hui. Hein. Ça fait un peu adolescent, mais c'est peut-être pas idiot dans l'adolescence cette idée de dire « mais j'ai rien demandé moi ». J'ai pas demandé de venir au monde. Sauf que dans cette phrase, je n'ai pas demandé de venir au monde, il y a une idée un peu subtile, totalement fallacieuse, qui est que Dieu aurait pu nous consulter avant que nous existions. Ce qui va quand même être assez compliqué. Donc la réalité, c'est que nous sommes là. Et que nous n'avons rien demandé. Et que Dieu nous confie des talents. Et ces talents, il nous demande de les faire fructifier. Et il nous dit, oui, tu n'as pas demandé d'être là, mais moi je veux que tu sois là. Je te donne des talents et tu les fais fructifier. Donc il y a encore cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, dans l'évangile c'est dit à la fin finalement. Hein. Tu en avais cinq, tu en reçois encore plus. Donc, toutes ces difficultés auxquelles nous faisons face dans notre vie terrestre, sont une occasion de remporter encore plus. Pas forcément d'être le premier, mais de remporter encore plus. Pour l'éternité. Ça dure un tout petit peu l'éternité, hein, quand même. Voilà, donc nous sommes contraints devant ça de nous dire, bon, maintenant il y a deux solutions. Hein. Soit je travaille pour l'éternité, soit je fiche rien. Et celui qui fait rien, il lui arrive quoi? Il se fait mettre à la porte. Pourtant, il n'avait rien demandé. Hein. Voilà, nous devons entrer dans ce projet de Dieu qui a voulu que nous soyons. Et pourquoi donc? Parce que c'est quand même ça la question. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que nous soyons? Eh bien, justement, pour que nous puissions être consultés. Dieu voulait que nous soyons consultés. Et pour consulter quelqu'un, il faut d'abord qu'il existe. Et en fait, il n'a pas besoin. Alors c'est une envie de Dieu, ça lui a pris comme ça, voilà, lui je vais le mettre dans l'être. Mais il faut reconnaître que nous n'avons pas la réponse à ça. Parce que c'est une réponse humaine, ça c'est une réponse créée. En fait, nous n'avons pas cette expérience que l'amour veut se répandre, veut se diffuser. Si, nous l'avons, pas forcément personnellement, mais l'engendrement, c'est quand même une diffusion de l'amour, hein. Sacrée diffusion. Hein. Voilà, c'est parce que deux êtres s'aiment qu'ils veulent produire, à partir d'eux-mêmes, un autre être. Et c'est ça l'origine de la chose, c'est ça le plan de Dieu. Et en fait, c'est ce que Dieu a fait. C'est qu'à partir des trois qu'ils sont, qui n'est qu'un Dieu, il fait en sorte que nous puissions être pour nous consulter. Et c'est tout de même extraordinaire de venir consulter un tout petit bout de chou comme ça, quoi. Voilà, donc, bon, c'est une exégèse très personnelle, hein, mais on a le droit. Donc, n'oublions pas ce combat. Dieu veut nous consulter. Pour le moment, il nous demande de combattre et il ne nous a pas consulté pour combattre. Mais en fait, il nous dit, voilà, combat et tu ne seras pas laissé pour compte. Alors évidemment, nous pouvons refuser aussi. Hein. C'est une forme de consultation. Nous pouvons refuser aussi. Mais est-ce que ça n'est pas de l'ingratitude de refuser le cadeau qui nous est fait? Je ne sais pas si on trouverait beaucoup de gens dans des trucs de jeu, là, je sais pas comment ça s'appelle, millions, machin truc, là. Non, non, vous êtes gentil, je rends le chèque, j'en veux pas. J'ai pas été consulté, je veux pas des 100 millions que vous me donnez. Je me demande combien de personnes feraient ça, quoi. Bon, là, c'est pas 100 millions, hein, c'est la vie éternelle, quand même. Donc on reçoit, on dit merci et on dit bon, on fait comment pour gagner? Voilà, je crois que c'est vraiment ça le sens de l'affaire. En tout cas, c'est un des sens de cela.